Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'agité du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et aujourd'hui c'est la dernière agitée du local de la saison. Une première saison pour moi où j'ai eu la chance de vous donner ce rendez-vous. J'ai eu la chance de pouvoir chercher du sens, le trouver, le partager avec vous à partir de tout ce qui se passe ici en Mayenne, près de chez moi et près de chez vous. Alors... pour cette dernière, j'ai pensé repartager avec vous un de mes premiers entretiens de cette émission. C'était lors de sa venue en Mayenne en octobre, j'ai pu échanger avec Florent Marchais qui venait jouer son dernier album Garden Party sur la scène du Carré à Château-Gontier. Dans quelques instants, je vous propose qu'on revive ce moment ensemble et ensuite on continuera avec du spectacle vivant qui s'invente ici dans nos salles et on ira justement à la Grande Surface à Laval avec l'Anima Compagnie qui présentait il y a 2 semaines sa dernière création, Soins Collectifs, un spectacle de rue autour des dérives de l'économie dite du développement personnel et du New Age. On se quittera sur ces beaux moments artistiques. Je vous propose de commencer maintenant cette émission avec un retour en arrière en bonne compagnie, celle de l'artiste Florent Marchais. Écoutez. Bonjour Florent Marchais. Donc vous êtes chanteur, vous composez des musiques pour le cinéma, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Monde du Vivant, publié chez Stock. Et pour ne rien oublier, vous écrivez et composez aussi pour d'autres artistes également. Donc ça fait quand même beaucoup de choses.
Moi, je me vois pas être monotâche ou monocréatif. J'ai besoin de garder de la fraîcheur, de l'excitation et de jamais trahir l'adolescent que j'étais. Et moi, ça me pose pas du tout problème de passer d'un truc à un autre à partir du moment où je prends la même dose d'excitation et de plaisir.
Cet album, donc vous avez commencé à l'écrire après l'annonce du premier confinement, si je ne me trompe pas. Vous ne pensiez pas repartir tout de suite dans l'écriture d'un album. Alors comment sont arrivées vos premières inspirations ?
Oh, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas réécrire des chansons dans ma vie. Je n'avais plus envie. Je prenais beaucoup de plaisir à écrire mon roman à l'époque. J'avais déjà commencé un deuxième, qui est là, qui est quasi terminé. L'écriture de musique de film me plaisait aussi. J'avais peut-être l'impression d'avoir fait le tour sur ce que j'avais à dire, en tout cas en chanson, puisque finalement, les sujets, je me rends compte, sont rarement les mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont, qui moi me semblent plus évidents à être défendu, exprimé à travers un média plutôt qu'un autre. En tout cas, là, j'avais plus trop cette envie. Et puis le fait de me retrouver confiné, c'était un confinement heureux, chanceux en fait, hein, avec ma famille, mes enfants. J'ai apprécié ce moment-là, le fait qu'on n'avait plus tellement de rendez-vous, plus tellement de dîners, plus rien du tout. Je passais mes journées soit à être avec ma famille, soit à lire, à écrire, à faire de la musique. Ben, étonnamment, il y a eu cette envie de raconter des histoires, peut-être aussi de raconter la vie des gens, ça peut être mes voisins, par exemple. Peut-être que j'ai eu cette envie de faire exister des personnages.
Et les chansons dans cet album sont des histoires, c'est aussi celles des gens en fait, qui vous écoutent. Il y a des questions comme la vie qui passe trop vite, le fait qu'on ne la voit pas défiler, par exemple, avec le titre « De justesse ». C'est quelque chose de violent pour vous, ça, ce temps qui passe ?
Oui, je devais définir ma façon d'envisager la vie. Bon, j'aime pas trop le mot caractère, mais ce serait plutôt j'aime la mélancolie heureuse. J'aime le fait de pouvoir célébrer la vie parce qu'on a pleinement conscience qu'on est mortel. J'ai conscience que je vais mourir un jour, hein, plus tard possible, mais j'ai conscience aussi que tous les gens que j'aime autour de moi, y en a un paquet que je verrai probablement mourir. Donc c'est à la fois terrible, mais c'est la condition pour être en vie. C'est la condition de la vie. Ça paraît bête, mais je me suis jamais caché ça. Et c'est vrai que je crois que si je suis mélancolique, c'est parce que j'ai un amour de cette vie qui est immense, et que écrire, ça permet aussi de revivre des choses plusieurs fois. Je me suis rendu compte de ça notamment en écrivant au long cours, l'écriture de romans. C'est quelque chose, une expérience quasiment sensorielle et physique, de se mettre à écrire et de se retrouver dans un lieu qu'on a aimé, de s'inspirer de gens qu'on a connus, J'aime comprendre ma propre vie à travers celle des autres. C'est vrai que la plupart des histoires que je peux raconter, c'est des histoires qui ne sont pas arrivées forcément directement, mais indirectement, ou des gens que j'ai pu connaître. Ou... Donc c'est une façon de comprendre aussi des situations qui parfois me semblent folles. Par exemple, sur cet album, l'histoire de du père qui est fâché avec son fils, qui parle plus à
Oui.
son fils et qui incapable de lui tendre la main. J'ai vu ça plein de fois autour de moi et très souvent je vois que c'est les mêmes mécanismes où ce sont les parents qui disent que c'est à l'enfant de revenir. Moi, ça fait très longtemps que je pense l'inverse en fait.
Tu te
Et donc j'avais envie d'écrire une chanson là-dessus, de choses que je trouve tellement tellement tristes. J'ai vu beaucoup de gens ne plus parler dans des familles, puis au moment d'un enterrement, se rendre compte qu'ils avaient juste perdu 10 ans ou 15 ans à pas se parler, et que c'est un peu con. Enfin, c'est très banal ce que je dis là, hein, mais.
Non, mais effectivement, je trouve que c'est ce que j'ai perçu aussi dans cet album. Vous évoquez beaucoup les liens complexes qui relient les personnes d'une même famille, les amis. C'est comme si les gens se croisent mais ne se disent pas vraiment les choses. Comment ça se fait que c'est aussi compliqué de communiquer avec les gens qu'on aime?
Ce que je vois, c'est qu'on a parfois beaucoup de mal à être humble, beaucoup de mal à demander pardon, beaucoup de mal à dire je me suis trompé. Enfin, moi, je trouve que ça nous rend pas moins fort, bien au contraire. Je crois que je suis souvent très très marqué par ça. Comment le stress, le fait de se sentir tout le temps débordé, puis la colère, le ressentiment, tout ça peut très souvent gouverner nos vies.
Il y a aussi la chanson Freddie Mercury. Enfin, c'est plutôt un texte parlé sur de la musique qui est presque à part, je trouve, dans cet album. Elle est vraiment d'une grande puissance. Comment vous est venue peut-être l'histoire de ce morceau qui est plutôt bouleversant?
Oh ben ça c'est j'avais écrit pas mal de chansons et je savais que j'étais parti pour refaire un album puisque quand on commence à avoir 7-8 chansons on se dit que c'est quand même pas trop mal parti et en fait je suis arrivé à une période où j'avais plus trop envie. J'avais envie de faire une pause, plus exactement. Je m'étais dit, je me remettrai sur mon album après. Puis il se trouve que, voilà, un soir, j'ai repensé à ce souvenir d'adolescence. Ça faisait longtemps que j'avais pas repensé. Puis j'ai commencé mais comme on prendrait des notes définitives, à prendre des notes, à me remémorer un petit peu cette histoire, de manière très très simple. C'est rare, j'écris très lentement. D'habitude, je suis laborieux, mais là, en une soirée, j'avais quasiment texte. Et je pensais au départ que ce serait un texte pour un recueil de nouvelles, parce que j'écris régulièrement des nouvelles. Puis je me suis mis au piano parce que je voulais dire le texte à haute voix pour voir comment ça pouvait sonner, comment je pouvais l'améliorer. Et puis j'ai trouvé cette musique et rapidement je me suis dit qu'en fait ça donnait une chanson et que ça faisait sens parce qu'il était beaucoup de questions de la famille, il était beaucoup de question de des relations compliquées, complexes entre les individus et les gens proches notamment. Là, ça a trouvé naturellement sa place, mais c'est vrai qu'à la base, je pensais pas, je pensais que c'était plutôt quelque chose qui n'était pas à destination d'être enregistré et lu.
On va vous retrouver
Oui,
sur
je
scène avec Raphaël Tisse, qui est multi-instrumentiste. Est-ce qu'il y a des arrangements différents de prévus? Est-ce qu'il y a des choses particulières au niveau peut-être de la mise en scène qu'on va pouvoir découvrir sur scène?
Oui, moi, j'aime pas reproduire l'album sur scène. Ça m'a jamais intéressé. C'est la possibilité de donner un autre éclairage. Et puis, de toute façon, la scène, c'est différent d'écouter un album tout seul dans son salon. J'ai envie de dire, parfois, la musique sur une scène est parfois plus visuelle qu'auditive. Et ça, faut en tenir compte. J'aime bien l'idée d'avoir une mise en scène, une scénographie, et puis d'emmener les gens dans une histoire. Là, pour le coup, je considère que les gens vont pas voir un concert, mais assistent à une sorte de fête de voisins. Voilà, où je leur raconte des histoires, une fête de voisins où la fête par moment est un peu plus sombre. Ça, c'est sûr. Mais j'aime aussi, entre les chansons, raconter d'autres histoires, pour le coup, beaucoup plus légères, Je crois que j'aime bien ce côté, faire des sortes de je sais pas si on peut appeler ça des mini-sketchs. Ouais. En fait, j'ai vraiment un fil conducteur du spectacle qui mise beaucoup, je pense, sur l'ironie, sur l'humour, comme contrepoint à mes chansons. J'aime bien, ça me permet aussi de souffler le chaud et le froid, en fait, avec le public.
Je trouve que ce que vous dites, ça fait totalement écho à votre pochette d'album, justement, et puis à son titre, Garden Party. Donc, c'est vrai que c'est une pochette qui est très colorée, avec effectivement cette représentation de la famille, mais avec une pointe d'ironie aussi, un petit peu par rapport au côté un petit peu maison de poupée au niveau de l'esthétique. Et finalement, quand on écoute cet album, on n'est pas que dans un angle effectivement merveilleux de ce qui se passe dans l'intime à l'intérieur des foyers.
Il y a toujours ce côté de vitrine aussi
Exactement.
dans les familles. Et c'est assez marrant comme enfin moi j'ai mis du temps avant de me rendre compte que toutes les familles avaient pouvaient avoir des problèmes, pouvaient avoir des drames, pouvaient mais comme très souvent tout ça est parfaitement bien caché, on met du temps à s'en rendre compte. Et c'est dans l'envers du décor que j'aime bien montrer. Parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être même très rassurant pour plein de gens de savoir qu'il n'y a pas que aussi. Il y a des gens qui ont honte de leurs problèmes familiaux, qui ont honte, enfin, et d'arrêter de faire croire qu'il y a des gens qui ont des vies complètement idéales. Elles sont idéalisées, mais elles sont pas idéales, loin de là. C'est pas vrai, ça. Donc, c'est montrer ça aussi. Mais c'est vrai que j'avais été frappé un jour enfin, voilà, j'avais écouter un matin la radio, et puis il y avait le chiffre des violences conjugales en France qui était tellement énorme. On se rend pas compte, mais on se dit forcément dans son propre quartier, forcément. Et je me dis, dans un quartier, moi c'est un quartier pavillonnaire, je me dis, bah, toutes ces petites maisons, toutes propres, toutes bien rangées, où la vie semble parfaite.
Ce que vous dites, ça fait quoi la chanson Comme il est beau dans votre album, justement, vous parlez
Ouais.
des violences conjugales.
Oui. Ben, en fait, ce qui est assez saisissant, c'est quand on parle d'un sujet, il a beaucoup été question aussi dans les médias ces temps-ci, surtout en littérature, avec des bouquins incroyables, dans celui de Neige Sino, quand on parle de l'inceste aussi, où on se rend compte qu'en fait, c'est pas des cas isolés, loin de là, des femmes victimes de violences conjugales qui ne sont pas écoutées, prises au sérieux. Il y en a énormément, c'est peut-être une majorité, en fait, de gens qui n'osent pas aussi, à chaque fois que la parole se libère, mais pas pour que la parole se libère, il faut qu'on puisse entendre cette parole.
Bien
Et
sûr.
quand on sent qu'elle ne peut pas être entendue, c'est souvent le cas, voilà, il y a encore pas mal de boulot. C'est ce qui m'intéresse. J'aime pas le fait qu'on idéalise, en fait, les choses. C'est vrai que j'ai toujours trouvé, moi, quand j'étais môme, j'allais à l'école, j'avais l'impression qu'on idéalisait les familles, qu'on essayait de nous faire rentrer dans des cases, qu'on essayait de... Il y avait quelque chose de très, très politique, hein. Moi, j'ai vraiment appris à lire avec maman fait du repassage et papa fume la pipe dans le canapé, hein.
Bien sûr.
En tout cas, ce bouquin, c'était ça. Et que ça, on nous présentait ça comme une vie idéale. Or, c'est un gros problème d'apprendre à lire en donnant des idées pareilles. C'est complètement fou. Et c'est vrai que par la suite, j'ai eu envie de montrer l'envers du décor. On vit dans ce monde-là aussi, il existe, en fait. Des drames à côté de nous, constamment. Moi, mes chansons, elles sont pas noires. Elles rendent compte du monde, une forme de réel, en fait. Mais j'espère qu'elles sont émouvantes, j'espère qu'elles permettent de se retrouver. Moi, c'est pour ça qu'après les concerts, j'aime bien parler avec les gens, et je sens que finalement, c'est ce que je raconte dans mes chansons, c'est pas si inutile, une forme de... Ouais, d'être utile, en fait. C'est pareil, un peu prétentieux comme ça, mais il y a un truc qui est important, en tout cas, de se dire, tiens, on a écrit une chanson. Moi, j'ai reçu plein de témoignages, de mes chansons. Les gens me disent, bah, ça nous a fait du bien d'entendre ça. Et ça me fait plaisir parce que c'est ce que j'attends, moi, quand je lis un roman ou quand je vois un film. C'est que ça m'apprenne des choses sur moi, que ça me fasse grandir, ou que ça ça vient de me mettre sur des sujets parfois durs.
Ça met des mots aussi sur des choses qu'on
Ça met des
n'arrive
mots,
pas à exprimer.
exactement.
Je pense que oui, exactement, on peut souligner ça. Puis vous arrivez à, dans chaque chanson, à pointer le détail, à lui donner une force, parce que finalement, on n'est pas obligé de vivre des choses extraordinaires pour vivre des choses fortes et intenses. Et souvent, c'est dans le détail aussi que se trouvent les plus belles choses ou les choses les plus difficiles. Ça va dans les deux sens, mais je trouve qu'on perçoit bien ça dans vos chansons également.
Ben merci.
Vous l'avez déjà joué sur scène, cet album. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de difficile? Est-ce qu'il y a une angoisse avant de monter sur scène ou alors c'est le moment que vous attendez le plus?
Il y a pas d'angoisse, il y a plus. Je pense que si j'étais très angoissé au début, je pense que j'aurais arrêté. D'ailleurs, je me suis posé la question il y a encore 10 ans. Je me dis, mais à quoi ça sert d'être si c'est pour se faire autant de mal, ça sert à rien. Mais j'ai forcément le trac avant de monter sur scène parce que plus on répète beaucoup, plus on travaille, plus on a le trac. Parce que j'ai toujours eu ce côté peut-être un peu trop, je vais dire bon élève. Je supporte pas, par exemple, me planter dans un texte sur scène. C'est quelque chose qui je répète énormément à cause de ça. Je prends pas ça à la légère de monter sur scène. J'aime la légèreté, mais je prends pas ça par-dessus la jambe. Mais en tout cas, j'essaie de faire le mieux possible par rapport à mes capacités et mes possibilités. Déjà, rien que ça. Si je déteste la compétition, mais si je suis en compétition, c'est vraiment avec moi-même constamment. J'ai vraiment besoin de ça.
Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'est un plaisir. Ça nous permet de vous découvrir un peu plus avant la représentation.
Ben merci beaucoup, merci.
On en parlait dans cette interview de la chanson Freddie Mercury. C'est un titre qui ne passe pas à la radio, plutôt longue et parlée. Je vous propose de l'écouter ensemble maintenant. Ne décrochez pas, c'est une histoire vraie, sensible et belle.
J'avais 15 ou 16 ans, c'était la rentrée au lycée. Tu t'es avancé vers moi, t'étais mince, assez grand. Tu m'as dit ton nom, que tu venais d'arriver. Qu'avant t'habitais dans le nord, pas très loin d'Arras. Le nom de la ville ne me disait rien. Je me rappelle de toi, d'une veste délavée, d'un jean un peu crado, cheveux blonds assez longs. En tout cas pour un garçon. Au moment de la sonnerie, tu m'as offert une Lucky. On est resté un peu à la grille, à cloper. J'étais bien. Pour une fois, je me sentais drôle, parce que tu riais. D'ailleurs, tu riais facilement. La main devant la bouche, pour mieux cacher tes dents. Les autres, ils t'appelaient John, et aussi le beatnik, à cause de tes lunettes. Elles étaient rondes et petites. Toi, tu t'en foutais bien. Moi, je me disais, ça y est, j'ai enfin trouvé un allié. On allait souvent chez toi, une cité HLM. Je me souviens d'un lac, de quelques immeubles et des types en jogging qui fumaient sur un banc. Chez toi, ton père y parlait peu. Avec lui, on buvait de la bière et du rosé, acheté chez Lidl, à 2 pas de l'appart. On passait des heures dans le canapé bleu tout défoncé. On partageait les écouteurs, Lou Reed, Scheller, Ferré. Presque aucun truc récent. Nick Drake, évidemment. Le salon sentait bizarre, la levure ou le curry. Très souvent des odeurs de friture, c'est ton père qui cuisinait. Je me souviens, il faisait même son pain. Tu habitais au rez-de-chaussée, c'était pas bien grand. Il faisait toujours sombre à cause des rideaux fermés. C'était pas un problème. Nous on aimait bien, et on restait quand même. Pourtant avec ta mère c'était pas la fête, elle criait tout le temps. Toi tu me disais c'est rien, quand t'es là elle se retient. Ses yeux étaient bizarres. Couleur d'huître, vert serpent, on aurait dit qu'elle était folle, toujours un peu ahurie. D'ailleurs, quand j'y repense, elle était vraiment cinglée. Partout sur sa peau, elle avait fait tatouer le nom et le visage de Freddie Mercury. Quand ta mère était là, on se tenait à carreau. Heureusement, la plupart du temps, elle dormait dans la chambre, parce que toute la nuit, elle était sortie au Pacific Club avec des amis. Toi, tu savais bien qu'elle n'avait pas d'amis. Tu faisais comme si, d'ailleurs, on n'en parlait pas. Parfois, elle était gentille. Elle venait s'asseoir sur le canapé. Elle était maigre comme toi. Alors, elle me fixait. Moi, je n'aimais pas tellement ça. Elle nous parlait de sa jeunesse. Ton père l'écoutait, il ne disait rien. Il avait pas intérêt, je crois qu'il s'en foutait. Elle racontait toujours la même histoire. La rencontre dans un train avec un chanteur connu dans les années 80. Elle aurait pu le suivre pour de bon. Si ma mémoire est bonne, c'était Yves Simon. Parfois, moi, je lui parlais, mais pas trop longtemps. Un peu comme un défi, aussi pour être poli. Je faisais bien attention, fallait pas dire du mal de Freddie Mercury. Fin juin, on avait presque plus court. On est resté au bord du lac à boire des bières, piquer au père. Je t'ai parlé de mes vacances à côté de Palavas. Tu m'as dit, moi, tu sais, j'ai jamais vu la mer et je sais pas nager. Pourtant, Arras, c'était pas bien loin de la Manche. J'étais allé regarder. Tu m'as dit justement que t'allais sans doute déménager, retourner là-bas. Que ta mère, elle s'en foutait si t'arrêtais l'école. Qu'elle voulait que tu restes avec elle. Mais que toi, tu donnerais cher pour aller à la fac. Que c'était ton truc, les bouquins, la philo, qui t'a trouvé un petit boulot. T'avais pas l'air en forme. J'ai rien dit. J'ai regardé ton front. T'avais un bleu énorme. Deux jours plus tard, ta mère a lancé une cafetière brûlante sur ton père. C'est passé à ça de ton visage. Il y avait des éclats de verre partout. Elle disait que ton père était minable, qu'elle aurait jamais dû avoir de gosse, qu'elle allait se foutre en l'air, se jeter sous un train. Elle a balancé une chaise par la fenêtre, aussi des assiettes, des dictionnaires ou des encyclopédies, tout ce qui lui tombait sous la main. Elle a griffé ton père, à la joue, sur le bras. Toi, ça te faisait rire de me raconter ça. Elle avait dit aussi qu'elle communiquait avec lui, qu'elle voyait son esprit. Que jamais il serait devenu pédé s'il l'avait rencontré. Elle parlait bien sûr de Freddie Mercury. Le lendemain, j'ai sonné chez toi, mais personne m'a ouvert. Derrière la porte, ta mère qui hurlait, et la musique à fond. Elle me traitait de pédale, tout ça se mélangeait, les cris, Bohemian Rhapsody. Alors je suis reparti, j'ai traversé la cour, j'ai marché pas longtemps jusqu'à l'abribus, et tu m'as rattrapé. T'en fais pas, reviens dans deux jours, le temps qu'elle se calme. Tu m'as dit ça et je suis sûr que si t'avais pu, t'aurais pleuré dans mes bras. Ensuite, silence radio. À l'époque, on n'avait pas de portable, seulement un fixe, parfois un répondeur, mais là, c'était pas le cas. J'appelais tous les jours, le matin, le soir. Ça sonnait dans le vide. Début juillet, avant Palavas, je suis passé devant l'immeuble, devant le numéro 12. Les stores étaient baissés. La sonnette marchait plus. Et sur la boîte aux lettres, il y avait même plus ton nom. Jamais revu et des années après, je pense encore à toi, à ton jean délavé, à ton corps efflanqué, à ton rire, à la musique qu'on écoutait. Aucune trace de toi, nulle part. Pourtant j'ai cherché, ouais, j'ai cherché. Mais où que tu sois, je pense souvent à toi. T'es vivant comme ça, t'es vivant comme ça. Et quand j'écoute la voix de Freddie Mercury, promis, je me moque pas. Promis. Je me moque pas.
C'était le 17 juin à la Grande Surface à Laval. L'Anima Compagnie présentait sa dernière création « Soins collectifs », un spectacle destiné à la rue autour des dérives de l'économie dite du développement personnel. Une pièce dans laquelle on se retrouve, on se moque des clichés, on se moque aussi de nous-mêmes, de l'autodérision, du rire, en parlant assez justement de tous les profits faits dans cette société sur les failles ou les fêlures des gens. On ramène un peu de cette pièce sur nos ondes. Écoutez.
Je Jeanne Michel, je suis co-directrice de l'Anima Compagnie avec Lucie Rimbaud, une compagnie qui existe depuis 2011-2012 à Laval. Et là, on propose un nouveau spectacle de rue. On a créé La Moitié Service Compris en 2015, quand viendra la vague en 2020. Et là, aujourd'hui, on est sur Soins collectifs, un spectacle de rue qui propose à la communauté de venir vivre un soin énergétique avec la grande Gloria Apesetas, une personne qui est très célèbre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram et aussi sur TikTok, mais bon, ça j'ai pas. Et donc on propose de venir profiter des pouvoirs magiques, en quelque sorte, de la chamane guérisseuse énergétique, maître depuis peu, Gloria Apesetas donc.
Bien, très bien, nous avons un bon groupe aujourd'hui. Maintenant, vous allez répéter après moi. Je guéris le monde pour me guérir moi-même. Je me guéris moi-même pour guérir le monde. À vous avec les mains. Je guéris le monde.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter quelque chose autour de cette thématique-là ?
J'ai été élevée dans des milieux décroissants un peu avant l'heure, hippie, etc., soignée à l'homéopathie. Et vraiment, j'ai rien contre tout ça, mais j'ai pu voir croiser sur mon chemin. Et aussi, quand j'ai travaillé dans certains magasins d'alimentation bio et en complément alimentaire, dont je tairai le nom, croiser aussi des personnes qui peuvent parfois s'improviser guérisseurs pour les autres alors qu'on peut même sentir qu'elles en ont besoin avant tout. Et c'est aussi traité pour certaines personnes en fait qui vont dans ces thérapies-là, auxquelles moi-même je vais, j'ai été, voilà, mais qui peuvent manquer de recul et parfois qui vont laisser s'installer une névrose, une psychose, un stress post-traumatique, en pensant bien faire, en allant vers ces thérapies, mais ça peut être une sorte de fuite, de déni, et qui ne fait qu'aggraver les choses, parfois. Et les personnes qui peuvent s'improviser comme ça, coach, guide, il y a évidemment des personnes qui sont qualifiées et qui savent dire non, là, ce n'est plus de mon ressort aller consulter la médecine plus traditionnelle, plus reconnue, pas forcément traditionnelle, mais il y a des personnes qui ne prennent pas cette responsabilité. Et donc là, ça devient parfois criminel, en fait.
La Tierra me demande 4 femmes, 4 mujeres, 4 énergies féminines, 4 femmes courageuses pour être définitivement purifiées et devenir les portes qui mèneront aux soins d'ici 39 minutes. Ces femmes nouvelles formeront un bouclier de puissance ultra-protecteur et invisible pour notre groupe.
On est parti dans un laboratoire autour du bouffon, du clown bouffon. Donc on a fait beaucoup d'improvisation, guidé un peu par Harry Holtzman de la compagnie Label Brut, qui a cette formation chez Jacques Lecoq et qui a pu nous guider là-dedans. C'est vraiment aussi l'endroit de l'impertinence, la jouissance de se moquer et de un peu de déranger quand même.
Et alors d'avoir choisi des personnages exclusivement féminins, d'où ça vient ?
Ah ben alors ça, je vais vous le dire. Ce qui m'a étonnée, c'est que moi, je portais ça, ce projet depuis longtemps. Et j'en ai parlé un petit peu, j'en parlais à des copines, à des copains. Et à chaque fois, les personnes qui réagissaient, c'était « Ah mais moi, j'ai trop envie de parler de ça, moi aussi ça me touche et tout ça. » Et c'était que des femmes. Et j'ai cherché un moment, je disais « Ah ben tiens, je pourrais prendre des copains. » En fait, je me suis rendu compte que peu pratiquent ça. Ou se connaissent suffisamment pour pouvoir en rire ensuite. Et là, ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais pourquoi les femmes y vont plus dans le soin d'elles-mêmes, etc. Qu'est-ce que ça vient raconter ? J'ai découvert que c'était, peut-être d'autres le savent, sûrement depuis longtemps, mais c'est l'endroit d'un manque de pouvoir aussi concret dans la société. Donc c'est ce qu'on invite à interroger. Les femmes sont plus confrontées à des abus aussi quand même. Enfin, je pense que là, ça se ressent dans la pièce. Et on en rit, mais en même temps, c'est pas drôle. Et c'est le dosage là qui est un petit peu délicat. La frontière est mince entre justement pas tomber dans le drame, pas tomber dans la gênance. Ça, c'est compliqué. Donc voilà, c'est prendre tout avec légèreté, ce qui est l'endroit du bouffon, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les différents pans de la société sont représentés finalement à travers ces personnages.
Ben oui, tout à fait. C'est ce que j'avais envie de raconter aussi, d'avoir la voix de la jeunesse. et ce qu'elle propose, parce que moi-même, du haut de mes 45 ans, j'ai deux enfants de la vingtaine et je suis bousculée régulièrement et je me dis que, et je sais que plein d'autres gens le sont. Enfin, moi, je me souviens que mon endroit de révolte à 19-20 ans, c'est à ce moment-là qu'on a la vérité, enfin, qu'on est le plus... On est certes le plus radical, mais c'est là qu'on est clairvoyant aussi. Et j'ai eu envie de le mettre ça en avant.
L'agité du local s'arrête ici. Merci à tous d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. Merci à Lucie d'avoir partagé un bon bout de cette année avec moi. Merci à Lise et à Léane que l'on a pu entendre également dans cette émission cette année. Merci à l'ensemble des chroniqueurs qui font aussi la richesse et la beauté de cette émission. Merci à eux pour leur singularité, pour chacun de leurs sujets, pour leur sourire, leur bienveillance et le plaisir de se retrouver en studio. Ça continue aujourd'hui sur nos ondes avec Dance Hall Social Club à 19h. Tempus Fugit prendra la suite à 20h. La nouvelle grille d'été commence lundi. Au programme, vous pourrez découvrir de nouvelles émissions comme Turbo Musette, Béchamel Chacha, Two Beatles or Not To Be, que vous avez déjà pu découvrir cette semaine sur nos ondes. J'ai aussi envie de vous parler de Elle en Mayenne, une émission portrait de femmes de notre département. C'est une très très belle émission locale. Et alors du lundi au vendredi, ce ne sera plus l'agité du local de 12h15 à 12h45, votre rendez-vous habituel. Mais à la place, vous pouvez redécouvrir des rediffusions de belles émissions que vous aurez déjà pu entendre cette année. Ce week-end, ne manquez pas notre émission spéciale en direct du Foin de la Rue, du festival Le Foin de la Rue. Ce sera demain à 14h30. Et nous, j'ai envie de vous dire, on se retrouve le 16 septembre pour la reprise de l'émission L'Agité du Local. D'ici là, faites-le bien.
Tu peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté. Les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.